Hier, je vous ai parlé de la femme chrétienne dans ses relations intimes avec Dieu. Toutefois, avant d'inspirer la vie de l'épouse et de la mère, il faut que cette piété féconde, elle doit déjà s'offrir au cœur de la jeune fille. C'est au cœur de la jeune fille que cette piété doit avoir son premier épanouissement. En effet, de la même manière, si vous voulez, il faut 6 ans pour faire un prêtre, et on dit tel séminariste, tel prêtre, il ne faut pas croire qu'une femme devient épouse et mère le jour de son mariage. Il faut que dès l'enfance déjà, et dès l'adolescence, dès ensuite la période qui suit, c'est à ce moment-là que la jeune fille doit développer les qualités qui lui seront indispensables pour être une bonne épouse et une bonne mère. Alors, puisqu'il y a parmi vous de nombreuses jeunes filles, je voudrais aujourd'hui m'adresser spécialement à vous, mesdemoiselles, pour vous aider à être fidèles à la grâce de Dieu. Et pour cela, il faut vous demander quel type de jeune fille le bon Dieu veut-il que je sois ? Quand un séminariste rentre au séminaire, il doit se poser la question « Quel type de prêtre le bon Dieu veut que je sois ?» Alors, puisque je ne connais pas votre avenir, je ne sais pas si vous allez être une épouse ou si vous allez rester dans le monde comme célibataire ou si vous allez rentrer au couvent, ce qui est la question à se poser aujourd'hui, c'est en tout cas « Quel type de jeune fille le bon Dieu veut que je sois ?» Eh bien, certainement, je ne pense pas me tromper, en disant que le bon Dieu veut que vous soyez aujourd'hui, en tout cas, de bonnes jeunes filles françaises. Alors maintenant, sur quel modèle vous fondez pour concrétiser votre idéal ? Eh bien, c'est sûr que le plus bel exemple de la jeune fille, c'est Notre-Dame. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas française, mais le plus bel exemple de la jeune fille, c'est Notre-Dame. Et c'est pourquoi il faudrait apprendre au cours de cette retraite, à croiser ce visage de Notre-Dame. Si je vous ai mis volontairement ces conférences à midi sur Notre-Dame de Pontmain, avant-hier et hier, et si aujourd'hui et demain, je vous ferai écouter d'autres conférences sur Notre-Dame de l'île Bouchard, c'est dans le but de vous permettre de découvrir le visage de la Sainte Vierge et de modeler votre visage sur le sien. Et comme on l'entendait hier à la conférence sur Pontmain, que la dernière image que la Sainte Vierge a donnée d'elle, c'est l'image de la Reine. Donc il faut voir à travers la Sainte Vierge, la Reine, il faut voir aussi à travers elle la maîtresse, mais il faut surtout voir à travers elle la mère. Et donc, laissez-vous attirer par sa beauté, laissez-vous attirer par sa douceur, laissez-vous attirer par sa tendresse. Et si vraiment vous voyez la Sainte Vierge telle qu'elle est, parfois il y a des images de la Sainte Vierge, moi qui me font horreur parce que elles sont très mièvres et on voit bien que ce n'est pas la Sainte Vierge, quoi. Donc, si vraiment vous voyez la Sainte Vierge telle qu'elle est, donc une femme forte, équilibrée, pleine de douceur, de bonté, mais en même temps aussi de grandeur, de majesté. Et si vous la voyez donc telle qu'elle est vraiment, vous vous sentirez apaisé, réconforté, grandi. Et sans doute que vous vous sentirez plus forte pour accomplir la mission que le bon Dieu attend de vous aujourd'hui et demain. Malheureusement, vous le savez, le vrai visage de la jeune fille française qui a été modelé au cours des siècles sur celui de Notre-Dame, et ça c'est sûr, et c'est pour ça que je vois bien le lien qu'il y a entre la jeune fille française et la Sainte Vierge. Les vraies jeunes filles françaises, par le passé, ont modelé leur visage sur celui de la Sainte Vierge. Malheureusement, aujourd'hui, ce visage est actuellement déformé. Alors, si vous voulez le retrouver, ce visage, eh bien, le secret que je voudrais vous révéler, c'est d'apprendre à vous mettre à l'école de la Sainte Vierge. Et pour vous y aider, je vais donc m'arrêter ce matin sur ces 3 seuls mots, mots qui sont tout simples. Jeune, tout d'abord, première partie de la méditation. Fille, deuxième partie de la méditation, française. Donc pour vous permettre de développer les grandes qualités si appréciées autrefois des jeunes filles françaises, je voudrais vous montrer de quelle manière la Sainte Vierge peut et doit vous servir de repère. Donc tout d'abord, premier volet dans cette méditation, nous allons nous attarder à ce mot de jeûne. Plus que tout autre, vous, jeune fille de France, vous devez trouver une joie profonde à regarder vers cette lumière, à scruter le visage de la Sainte Vierge qui, dans le passé, plus qu'en aucun autre pays du monde, a modelé le vôtre. Rappelez-vous, par exemple, le rôle qu'au long des âges, la Sainte Vierge a joué dans l'éducation de saintes comme Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Germaine, Sainte Solange, Sainte Colette, Sainte Odile, ou encore même plus près de nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Eh bien, à travers toutes ces saintes de France, c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas discerner l'influence de la Sainte Vierge. Autrefois, il y avait un vieux mot français qui résumait les qualités propres aux jeunes filles de France. On parlait de la gentillesse française. Alors maintenant, il faut bien comprendre le sens de ce mot-là. Quand on dit que bon, une fille est gentille, ça veut dire qu'elle est agréable, elle est de bonne compagnie. Ce n'est pas ce sens-là. Ou alors, quand on dit qu'elle est gentille, ça veut dire qu'elle est un peu simple, quoi. Ce n'est pas non plus ce sens-là. La gentillesse française, qu'est-ce que ça signifiait ? On disait que les filles de France étaient gentilles, gentilles, donc il y a le terme de gens, qui veut dire en fait de bonne race, de bonne maison, de bonne éducation. Et quel que fût par ailleurs leur milieu social. On découvrait à travers les jeunes filles françaises une certaine noblesse dans leur tenue. On découvrait en elles un vrai bon sens. Et on voyait surtout, ça a toujours été la qualité des Françaises, on voyait en elles le sens de la mesure. Ce sens de la mesure qui apparaissait jusque dans leurs rires et leurs paroles. Et c'est si vrai que les étrangers eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher d'admirer ce type accompli de jeune fille qu'était la fille de France. Et malheureusement aujourd'hui, trop souvent, en raison de l'influence du monde moderne, du monde actuel, le vrai visage de cette jeune fille de France s'est peu à peu altéré, maquillé, déformé. Un romancier déjà écrivait en 1934, donc il parle des jeunes filles de 1934. Donc les jeunes filles de 1934, c'était des jeunes filles, vous voyez, qui étaient nées en gros en 1914. Donc qui ont aujourd'hui, je ne vais pas dire quel âge. Donc un romancier écrivait en 1934 que la jeune fille de l'époque souffrait surtout d'un mal qui attaquait les sources mêmes de son être, qui flétrissait précocement sa fleur et menaçait de stériliser son fruit. Quel était le mal de l'époque ? Il appelait cela le mal de jeunesse. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Eh bien en parlant des filles de son époque, il l'écrivait. Sa jeunesse est morte et bien morte. Quelquefois, dans la petite fille espiègle, apparaît tout à coup une affreuse vieillarde. Dans la petite fille espiègle, apparaît tout à coup une affreuse vieillarde. Et il ajoutait, c'est que la jeunesse n'est pas seulement liée à la chair et au sang, l'usure est d'ordre spirituel. Ça, c'est très important à comprendre. C'est ce que j'ai à comprendre d'ailleurs aux filles de Pouilly, qui sont plus jeunes encore que vous, parce qu'à mon avis, c'est dès cet âge-là qu'il faut prendre conscience de ce que je veux vous dire ce matin. La jeunesse n'est pas seulement liée à la chair et au sang, l'usure est d'ordre spirituel. Donc il faut comprendre que la vraie jeunesse est d'ordre spirituel. Par conséquent, les âmes ne vieillissent pas qui s'apparentent à l'Éternel. Et c'est pour cela que le prêtre, quel que soit son âge, un prêtre de 85 ans ou de 90 ans, quand il monte à l'autel, il dit qu'il monte à l'autel de Dieu qui réjouit sa jeunesse. Introibo ad altare Dei, adeum culetificat juventutem mea. Quel que soit son âge. Voulez-vous donc rester jeune ? Le secret pour ne pas vieillir, le petit flash de pub, soyez spirituel. Regardez la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a vécu jusqu'à 65 ou 70 ans. Et pourtant, dans toutes les apparitions, on n'imagine pas la Sainte Vierge, vous voyez, sous la forme d'une vieillarde, justement. La Sainte Vierge apparaît toujours sous la forme d'une jeune femme. Et par contre, aujourd'hui, très souvent, vous voyez des jeunes de 15, 18 ans qui sont blasés, désabusés, et complètement éteints. Ils ont des visages tristes. On a l'impression que la vie, pour eux, est vraiment un poids accablant. Alors, c'est vrai que certains ont de grandes épreuves. Il y a des familles qui sont désunies, il y a le problème du chômage, il y a le fait qu'ils n'ont pas la foi, bon, tout cela. Et beaucoup de ces jeunes ne connaissent pas le but de la vie. Et c'est pour cela qu'ils tombent justement dans ces travers. Mais donc, reconnaissez par là que la vraie jeunesse, eh bien, n'est pas, comme on dit aujourd'hui, les jeunes, normalement, il faut bien que jeunesse se passe. Et donc, il faut bien que jeunesse se passe, ça veut dire que la jeunesse serait un temps uniquement pour le plaisir. Eh bien, non. On voit bien que ceux qui cherchent à trouver uniquement des satisfactions animales ou sentimentales, eh bien, ont des têtes qui ne sont pas forcément toujours très épanouies. Alors, pour éviter de tomber dans ces pièges, il est bon de réfléchir aux moyens à prendre pour conserver votre belle jeunesse. Et pour cela, n'oubliez pas que notre nature humaine est ainsi faite que, d'une manière générale, on peut dire que l'enfant croit et obéit. Le petit enfant, normalement par nature, il est crédule, il croit ce qu'on lui dit, même si, bon, après, il y a aussi des enfants qui ont plus de mal à obéir que d'autres, des enfants qui ensuite ont tendance à poser mille et une questions, surtout aujourd'hui. Mais spontanément, on va dire que l'enfant croit et obéit, tandis que l'adolescente, on passe d'une tranche d'âge à une autre, l'adolescente admire et choisit. C'est là le plan de Dieu, on pourrait dire, dans le développement d'un être humain. L'enfant croit et obéit, l'adolescente admire et choisit. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont du mal à obéir, mais il est plus facile d'obéir à l'âge de l'enfance qu'à l'âge de l'adolescence, ça c'est sûr. Et donc, si à l'âge de l'adolescence, on a du mal à obéir, il faut un autre moteur. Les arguments d'autorité, ce n'est pas suffisant pour faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes des adolescents. Alors, quel va être le moteur des jeunes filles pour les aider à grandir? C'est l'admiration. Et donc, il faut que les jeunes filles apprennent à admirer la Sainte Vierge et à son école, apprendre à rester jeunes. Et pour cela, il faut voir les qualités qui sont présentes en Notre-Dame et que la jeune fille doit reproduire en elle. Première qualité qu'on observe en Notre-Dame, c'est la pureté. La vraie jeunesse est pure. Jusqu'au mariage, c'est le même mot qui désigne la jeune fille qui se destine au mariage et celle qui va se consacrer au bon Dieu dans la vie religieuse. Ce mot, c'est celui de vierge. Alors malheureusement aujourd'hui, la télévision, Internet, la radio, le cinéma, les journaux sont remplis d'impuretés, et même dans les rues. Donc c'est difficile aujourd'hui, c'est vrai, de garder cette belle vertu. Et pourtant, c'est indispensable. C'est indispensable pour qui veut être équilibré, équilibré naturellement déjà, et surnaturellement encore davantage. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu, nous a dit notre Seigneur. Alors, comparez maintenant le type de la fille moderne à une grande sainte, par exemple, comme Sainte Jeanne d'Arc. Et vous verrez le degré d'abaissement de la société actuelle. En Sainte Jeanne d'Arc, on pouvait admirer en elle une grande réserve, mais qui n'était pas la timidité. On voyait en elle une grande ouverture aux autres, un grand accueil aux autres, qui n'était pas pour autant de la provocation. On voyait en elle aussi une grandeur d'âme, mais qui n'était pas étalage. Et donc, si vous voulez vous rapprocher de cet idéal, de ces jeunes filles qui vous ont précédé, qui sont devenues de grandes saintes, apprenez dès maintenant que de la même manière qu'il n'y a pas de demi-propreté, il n'y a pas de demi-pureté. Si vous tachez votre chemise, ben elle est sale, elle est plus propre, c'est comme ça. Et s'il n'y a même qu'une tache, elle est tachée. Eh bien, de la même manière qu'il n'y a pas de demi-propreté, il n'y a pas de demi-pureté. La jeune fille qui désire se marier doit s'y avancer avec la même disposition que celle qui s'oriente vers le cloître. Donc si vous voulez vous marier un jour, l'hostie de votre sacrifice ne doit pas être moins blanche que celle qui est offerte par celle qui se donne à Dieu dans la vie religieuse. Et il faut même un sacrement de plus, le sacrement de mariage. Donc soyez purs, Soyez pur, soyez vrai. Deuxième qualité qu'il faut développer pour être vraiment une jeune fille dans la ligne des saintes de France qui vous ont précédé, dans la ligne de la Sainte Vierge, c'est d'être vrai. Un être pur n'a pas à se cacher, n'a pas à se dissimuler, n'a pas à mentir. Dès lors que vos enfants, pour celles qui sont mariées, se cachent, eh bien, c'est pas bon signe, voyez. Quand on est droit, quand on est dans la ligne voulue par Dieu, on n'a pas à se cacher, on n'a rien à cacher. Et quand au contraire, on commence à faire des bêtises, alors après, oui, là, on cherche à se cacher. Et combien de jeunes aujourd'hui, malheureusement, justement, sont masqués? Vous les voyez apparaître avec un look branché pour se mettre au goût du jour, mais en fait, on soigne l'apparence, si vous voulez, on soigne l'extérieur. Mais cet extérieur, cette mise extérieure, cache en fait une misère intérieure. Donc, comprenez que ce n'est pas le paraître qu'il faut développer, mais c'est l'être. Donc, si vous voulez un jour construire quelque chose de solide, il faut bien asseoir les bases. Et il faut que ces bases soient profondes. Une maison qui est construite sur du sable, nous dit notre Seigneur, eh bien, va s'effondrer. Donc, au lieu de chercher à développer le paraître, il faut développer votre être. Et pour cela, il faut être vrai. Donc ne sortez pas de l'ordre providentiel. Vous êtes comme vous êtes, vous restez ce que vous êtes. Le bon Dieu vous aime comme vous êtes, malgré vos défauts. Vous devez bien sûr corriger vos défauts, mais restez ce que vous êtes. Être à sa place et y être heureuse, c'est là l'attitude de la Sainte Vierge qu'il faut imiter. Dès lors que vous voulez être autre chose, une autre personne que celle que vous êtes, vous vous rendez malheureuse. Donc, il faut d'abord s'accepter tel que l'on est. C'est le point de départ pour arriver à développer le meilleur de soi-même. S'accepter tel que l'on est, en voyant ensuite après ses déficiences et en essayant de voir de quelle manière les corriger, bien sûr, pour s'améliorer. Donc, première qualité, la pureté de Notre-Dame. Deuxième qualité, la vérité. Troisième qualité, la disponibilité. Ce qu'on peut admirer dans la vie de la Sainte Vierge, d'après ce qui nous est donné dans la Sainte Écriture, on peut admirer en elle la disponibilité. On peut dire que le monde a ses maximes, il faut vivre sa vie, ton corps est à toi. Eh bien, nous aussi, nous avons nos maximes. Nous vivons de la vie de Dieu et nous voulons développer cette vie de Dieu. Et c'est cette vie d'intimité avec Dieu qui va engendrer en vous la disponibilité. Pour être capable d'être disponible, il faut vivre de Dieu. Parce que, par nature, on est égoïste. Pour être charitable, il faut que ce soit le bon Dieu qui vient en nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « Chaque fois que je fais le bien, je sens bien, entre guillemets, que c'est Jésus-Christ qui est en moi, qui est le moteur, en ce moment-là, de mon action. » Donc il est nécessaire, il est indispensable d'avoir une certaine intimité avec Dieu pour arriver à avoir la disponibilité, avoir l'ouverture à l'action de la grâce. On devrait pouvoir dire de vous, comme de la Sainte Vierge, « Dominus tecum », le Seigneur est avec vous. Et la conséquence, c'est que de votre côté, vous devez être prête à dire « Ecce ancilla Domini », voici la servante du Seigneur. Quel que soit l'état de vie que le bon Dieu vous a réservé, si vous voulez réaliser le plan de Dieu sur vous, parce que Dieu est providence, donc Dieu a un plan sur vous, ça c'est sûr, il vous faut aujourd'hui apprendre à développer cette qualité qu'est la disponibilité. Je le disais à la première conférence, les desseins de Dieu ne sont pas les nôtres. La vie nous réserve des surprises. Les plus anciennes sont d'accord avec moi là-dessus. Et donc si nous voulons les accepter sereinement, eh bien, il faut nous apprendre à nous assouplir par cette qualité qu'est la disponibilité. Si nous nous entêtons, si nous nous raidissons intérieurement, nous empêchons l'action de la grâce de s'opérer en notre âme. Donc, il faut être souple pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu sur nous. Et ce qui va stimuler, je dirais, vos efforts dans l'acquisition de ces vertus, de pureté, de vérité, de disponibilité, c'est de savoir que ces qualités-là sont vraiment source de joie profonde et durable. C'est vrai qu'aujourd'hui, sous un certain rapport, le monde n'est pas très drôle, ça c'est sûr. la perte du sens de Dieu, la dégradation des mœurs, le chômage, l'insécurité, ben, tout cela, si vous voulez, ça rend le monde actuel difficile et triste sous un certain rapport. Mais malgré ce monde qui est vieilli et désemparé, si vous vivez de Dieu, eh bien, vous aurez un trésor en vous. Et ce trésor-là va vous dédommager eh bien, de tout le mal que vous pourrez apercevoir autour de vous. Et donc, loin que cela vous conduise à un repli sur vous-même, à une certaine aigreur et tristesse profonde, cela vous... vous aurez en vous, si vous voulez, un mélange, bien sûr, de joie et de tristesse. C'est sûr que le fait de voir que le monde aille mal, ça ne nous rend pas joyeux, c'est une évidence. Mais ce n'est pas en se repaissant du matin au soir du négatif que vous arriverez à vous épanouir. Pour pouvoir vous épanouir, il faut du positif. Comme j'aime à dire souvent, c'est le positif qui nous fait avaler le négatif. Et donc, il faut d'abord être positif. Et le positif, c'est la vie de Dieu en nous. C'est ça, le positif. Et c'est ce positif qui vous aide ensuite à regarder le monde, alors, avec le regard de Dieu. Un regard qui est beaucoup plus un regard de compassion qu'un regard d'indignation. Alors, pour terminer ces réflexions sur la jeunesse, attachez-vous à discerner le regard que Notre-Dame, oui, porte aujourd'hui sur ce monde. On peut dire que le regard de Notre-Dame sur ce monde n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, parce que l'indulgence ne va pas sans quelque expérience, et la Sainte Vierge n'a jamais eu l'expérience du mal. Mais on peut dire que ce regard qu'elle porte, c'est vrai, c'est un regard de surprise douloureuse et de tendre compassion. Surprise douloureuse. Quand on a compris qui est Dieu, quand on a compris le but de la vie, eh bien, on se dit, comment se fait-il que l'homme puisse ainsi se faire le jouet du diable au lieu de placer son trésor au ciel? Quand on voit tous les avantages qu'il y a à mener une bonne vie chrétienne et à vivre près du bon Dieu, dans le champ du bon Dieu, on est beaucoup plus heureux qu'en vivant dans le péché, ça c'est sûr. Et donc la Sainte Vierge, qui voit le souverain bien qu'est le bon Dieu, elle a cette tristesse profonde de voir comment les âmes sont ainsi le jouet du démon. Et il faut que vous partagiez vous-même ce regard, que vous portiez sur les âmes ce même regard. Ce regard de surprise douloureuse et de tendre compassion. Et c'est ce regard qui vous aidera à prendre davantage conscience de ce que vous avez reçu et qui vous donnera ensuite la force, la lumière de faire partager aux âmes ce trésor qui est en vous. Donc voilà pour ce mot de jeune. Maintenant, deuxième terme, fille. Après cette méditation sur le mot donc de jeunesse, arrêtons-nous sur le mot de fille. Voici comment le grand sculpteur Rodin décrivait au XIXe siècle la jeune fille française. Description qui est très belle. La modestie et la mesure sont les grandes qualités des Françaises. Les jeunes filles apportent du même geste toute grâce et toute puissance. Leur passage illumine la vie, et leur modestie est proportionnée à leur force. Ce sont les bénédictions de la ville et du monde, les jeunes filles. Porteuses de vie, formes sensibles de l'espérance et de la joie, matière de tous les chefs-d'œuvre, elles sont si près de la nature. Jamais leur mouvement ne pêche contre la géométrie divine. Vierge, quel mot prestigieux. Mère, douceur qui équivaut à la beauté. Et le sculpteur va observer ainsi ces jeunes filles. La démarche de ces jeunes femmes qui vont à l'église, sans modestie affectée, le buste droit, le pas ferme, dans la rue paisible de la petite ville. Ce ne sont pas de ces chairs diaphanes, traitées au plus précieux parfum, où la vie craindrait de se laisser voir. Je parle d'être simple, vrai et saint, S-A-I-N-S, bien vivant, de ces femmes prédestinées à la joie et au sacrifice. Donc vous voyez quelle belle appréciation qui est tout à l'honneur des jeunes filles françaises. Alors maintenant, essayez de garder en mémoire cette description et ayez la curiosité de faire un petit tour à Paris, par exemple, dans quelques trains de banlieue, pour regarder la jeune fille d'aujourd'hui. À votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont pouvoir retrouver les mêmes qualificatifs, qui vont remplir un petit peu ce portrait, qui vont correspondre à ce portrait de Rodin? À mon avis, on n'en trouvera pas beaucoup, sauf peut-être certaines parmi vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on ouvre les yeux autour de nous, ce qu'on ne doit pas toujours faire parce que parfois on préfère les fermer que de les ouvrir, mais quand on voit donc ce type impersonnel, je dirais, de ce type standard, qui est tel que quand on voit les personnes de dos, on se dit, tiens, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? Oh, ça c'est un garçon. Ben non, dommage, c'était une fille. Je me suis fait avoir. Alors, comment a-t-on pu en arriver là? La question qu'on peut se poser, si vous voulez. Vous voyez donc la jeune fille telle qu'elle était au 19e, jeune fille française. Vous voyez la jeune fille d'aujourd'hui, bon, d'une façon bien sûr très schématique. Comment a-t-on pu arriver à cette décadence, arriver à cette jeune fille que l'on peut croiser dans la rue aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, il faut que vous soyez intimement convaincu que la jeune fille comme la femme d'aujourd'hui ne sont pas nées de la dernière pluie. Il y a eu un plan organisé, une stratégie bien définie et qui s'accomplit méthodiquement et qui répond à une pensée diabolique. L'année dernière, j'ai plus développé cet aspect-là, je ne fais que le signaler aujourd'hui en quelques mots. La stratégie utilisée a eu pour source deux courants de pensée de la philosophie allemande. La philosophie, donc le philosophe Nietzsche et Marx. Tout d'abord Nietzsche. Nietzsche disait « L'homme aime à la fois le danger et le jeu, c'est pourquoi il désire la femme, le jouet le plus dangereux. » Donc la femme est vue par Nietzsche comme l'objet de délassement du guerrier, dans Ainsi parlait Zarathoustra. Et c'est ce qui explique la promulgation de lois comme la contraception, comme l'avortement, ou encore aujourd'hui la limitation du temps de travail. Donc grâce à toutes ces lois, l'homme va pouvoir profiter plus facilement de la femme. Donc c'est la conception de la femme objet, dans la ligne de Nietzsche. Maintenant, si vous regardez la ligne de Marx, alors c'est une vision complémentaire et qui va déboucher sur la femme d'aujourd'hui. Pour Marx, la femme est conçue comme le compagnon de travail de l'homme. Vous savez que pour le marxisme, il n'y a que le travail qui compte, il n'y a que la production qui compte. Et c'est vraiment dommage que l'humanité étant partagée entre hommes et femmes, qu'il y ait tant de femmes qui restent à la maison à ne rien faire, disait Marx. Et donc il faut essayer de trouver une solution pour que les femmes aillent sur le marché du travail. Alors comment faire? Si on leur dit, eh bien alors, vous devez aller travailler aussi comme votre mari. Bon, en ce moment-là, ça n'aurait pas marché comme étiquette, comme façon de faire. Donc on a essayé de s'y prendre autrement. Comment s'y est-on pris? Eh bien, on s'est dit, pour amener la femme à travailler à l'extérieur, ce qu'il faut faire, c'est essayer de gommer au maximum toutes les différences qu'il y a entre les femmes et les hommes. Donner aux femmes un complexe d'infériorité pour les amener ensuite à vouloir devenir en tout comme les hommes. Donc d'abord, on va leur donner ce complexe d'infériorité par rapport aux hommes. Et face à ce complexe, on va leur dire, on a trouvé la solution, vous avez aussi le droit d'être un homme comme tout le monde. Si bien que la femme, aujourd'hui, devient un homme comme les autres, selon la pensée d'aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on a invité, par exemple, les femmes à porter des habits d'hommes. Ce n'est pas du tout innocent. Le but, c'était d'enlever les signes de féminité. Si vous enlevez tous les signes extérieurs de féminité, comme le foulard, comme en mettant aussi donc des habits d'hommes aux femmes, eh bien, en ce moment-là, vous allez faire perdre à la femme sa propre féminité. La comparaison que je prends toujours, c'est la soutane. Les francs-maçons connaissent très bien la nature humaine, et ils ont dit, comment faire en sorte pour que le prêtre devienne un homme comme les autres? Arrachez-lui sa soutane, enlevez-lui la soutane. Et il y a un passage bien connu d'un franc-maçon qui disait, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais moi je dis que l'habit fait le moine. Et donc, justement, enlever la soutane au curé, et petit à petit, le prêtre deviendra un homme comme les autres. Il n'aura plus conscience de sa différence. La soutane est un rappel pour le prêtre qu'il est prêtre. Eh bien, l'habit féminin est un rappel à une femme qu'elle est femme, tout simplement. D'où l'apparition aujourd'hui donc d'une civilisation unisexe. Vous voyez des femmes chauffeurs de poids lourds, gendarmes, ministres. Et retenez que dans les deux conceptions, dans les deux systèmes de pensée, celui de Nietzsche comme celui de Marx, la femme est conçue par rapport à l'homme. Dans un cas, elle est le jouet de l'homme, dans un autre cas, elle est le compagnon de l'homme. Donc la femme d'aujourd'hui a été conçue par des hommes et a été conçue pour le profit de l'homme. Et si les femmes s'en rendaient compte, peut-être qu'elles tomberaient moins facilement dans ce piège. Donc vous avez bien compris la stratégie. Des hommes se sont demandés comment faire pour jouir davantage de la femme, femme-objet, et pour la rendre plus productrice sur le marché du travail. La carte jouée pour faire marcher les femmes dans leurs combines, ça a été le mot magique de liberté, l'esclavage du démon. Donc on a dit aux femmes, jusqu'ici vous étiez condamnées à rester à la maison, vous occuper des enfants. Vous avez le droit d'accéder aux mêmes travaux que l'homme. Vous avez le droit de profiter de votre corps. Et donc, en cédant à cet appât, eh bien, la femme, elle est devenue l'esclave de l'homme. En effet, il faut bien comprendre que le féminisme est un masculinisme. Le féminisme conduit la femme à se modeler sur l'homme. Et donc, la femme qui suit cette conception, elle va devenir moins femme, mais sans devenir homme pour autant. Donc, elle va perdre son identité, mais ne va rien gagner en échange. En se modelant sur l'homme, elle va contribuer tout simplement à rendre la société moins humaine. C'est tout ce qu'elle peut faire. Alors face à une telle situation, il faut se demander comment la femme, puisque je m'adresse à des femmes, comment la femme pourra-t-elle rendre la société plus humaine et plus catholique ? Eh bien, la femme rendra la société plus humaine en la rendant plus féminine et elle la rendra plus catholique en modelant son visage sur celui de la Sainte Vierge. Donc c'est dès aujourd'hui que les jeunes filles doivent apprendre à reproduire en elles le visage de Notre-Dame, le visage de la servante, le visage de l'épouse et le visage de la mère. Le visage tout d'abord de la servante. Voici la servante du Seigneur, disait la Sainte Vierge. C'est donc cette disposition qu'il faut cultiver. Même si ce n'est pas toujours facile, il faut que vous appreniez petit à petit à rendre service eh bien, autour de vous. La femme est toujours celle qui doit avoir l'œil ouvert pour satisfaire aux besoins de ceux qu'elle aime. Et donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut que vous appreniez à ouvrir les yeux pour répondre à l'attente de ceux qui sont dans le besoin. Donc tâchez ainsi de reproduire le visage de Notre-Dame sous le rapport de la servante. Ensuite, reproduisez également celui de l'épouse. En contemplant la Sainte Vierge, on ne voit pas en Notre-Dame la camarade, on ne voit pas en elle l'égale de l'homme. On voit en Notre-Dame le complément divin de notre Seigneur. C'est autre chose. La Sainte Vierge apparaît, nouvelle Ève, comme l'aide semblable à lui, mais selon un ordre différent, en raison de cette complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme. On voit donc la Sainte Vierge apparaître comme l'aide semblable à lui et comme la co-rédemptrice. Donc vous savez, comme je l'ai dit, la femme aujourd'hui cherche à se modeler sur l'homme, mais vous qui voulez devenir des femmes à part entière, refusez aujourd'hui de vous modeler sur l'homme. Et c'est pourquoi évitez, autant que vous le pouvez, même si après dans certaines circonstances, il peut y avoir des exceptions, mais évitez autant que possible de porter des habits d'homme. Selon le monde, la femme doit se modeler sur l'homme, selon Dieu, elle doit modeler l'homme. Et modeler l'homme, c'est une mission qui est bien supérieure, bien plus grande, bien plus noble, bien plus exaltante que de singer l'homme. Je pense que vous le comprenez toutes. Regardez donc la Sainte Vierge et elle vous fera comprendre bien mieux que moi. Il y a quelque chose d'infiniment plus beau que de vouloir à tout prix tout faire comme les hommes, c'est de créer les hommes, c'est de les porter, c'est de les nourrir, c'est de les élever au sens le plus profond du terme, et après les avoir enfantés à la vie naturelle, les enfanter à la vie de la grâce. Et c'est ça la mission d'une mère. La mission d'une mère, c'est faire du petit bébé qui au départ est si proche de l'animalité, c'est d'en faire un être qui soit un jour digne de partager le bonheur même de Dieu. C'est ça la fonction de la mère. Et cette mission, elle est bien plus noble que celle d'une caissière dans un supermarché ou celle d'une femme qui travaille à l'usine, même si certaines femmes sont obligées aujourd'hui de travailler à l'extérieur pour X raisons. Mais c'est vrai aussi, et ça c'est un autre aspect, c'est vrai aussi que pour élever les enfants, il faut aussi beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup de prières et il faut surtout beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'amour vrai et non pas d'amour égoïste. C'est à coups de baisers, de prières, de larmes, de silence, de pardon qu'une maman mérite de faire de son enfant un homme, un prêtre et peut-être même un saint. Alors si vous voulez un jour accomplir cette mission, eh bien comprenez la nécessité où vous êtes de vous y préparer dès maintenant. Voyez, il faut bien comprendre que la mission que vous aurez demain, c'est aujourd'hui qu'il faut la préparer. On ne se dispose pas à devenir épouse et mère parce que le prêtre a donné une bénédiction le jour du mariage. C'est bien avant qu'il faut préparer votre visage d'épouse et de mère. Toute femme est mère par nature, nous en avons parlé hier, qu'il s'agisse d'une maternité physique ou d'une maternité morale ou spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'a vu hier aussi, le bon Dieu vous a donné des dons particuliers, des dons de perception spirituelle qui sont plus profonds que les dons qui ont été octroyés aux hommes d'une façon générale. Le pape Pie XII le reconnaissait, on l'a vu hier. Alors comment aujourd'hui inaugurer votre mission de future mère ? Eh bien, par exemple, lorsque vous approchez une âme d'enfant, pensez à la Sainte Vierge. Et essayez d'imiter sa délicatesse. Essayez de porter sur ces enfants que vous rencontrez le même regard que la Sainte Vierge. Essayez toujours de respecter le mystère de la destinée de cet enfant, le mystère de sa vocation. On peut dire que chaque enfant, voyez, chaque âme d'enfant est un paysage unique, une note irremplaçable dans l'harmonie divine. Le bon Dieu ne travaille pas en série. Le bon Dieu, chaque être qu'il fait, il le fait, il est unique en son genre. Et c'est ce qui explique le rôle important que vous devez avoir dès aujourd'hui et que vous aurez à remplir demain. Donc si vous voulez demain être des éducatrices, si vous voulez demain être des éveilleuses d'âme, eh bien c'est dès aujourd'hui que vous devez apprendre à savoir de quelle manière regarder les enfants. Ne pas les regarder tout simplement pour en retirer une satisfaction égoïste, mais les regarder avec toujours ce désir de chercher constamment le vrai bien de ces enfants, en vous disant qu'est-ce que Dieu attend de cet enfant ? Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour rapprocher cet enfant du plan que Dieu a sur lui ? Donc, tâchez de vous pencher d'une âme vierge, dans ce silence plein d'admiration et de respect, sur l'âme vierge de l'enfant. Et apprenez à voir à travers ces enfants, surtout ceux qui sont baptisés, apprenez à y contempler la demeure de la Sainte Trinité. Et donc, dès lors que vous porterez ce regard de foi sur les petits-enfants que vous rencontrerez à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous aurez une approche qui sera beaucoup plus, bien sûr, dans la ligne de Notre-Dame que dans la ligne d'Ève. Et donc, vous pourrez par là apporter à ces enfants le meilleur de vous-même. Donc, en conclusion sur cette deuxième partie, je vous dirais que entre Ève et Marie, il faut choisir. En chacune d'entre vous, il y a une cohabitation d'Ève et de Marie. Comme en chacun d'entre nous, il y a une cohabitation du vieil homme et de l'homme nouveau. Donc c'est à nous d'éteindre toujours davantage ce qui est dans la ligne du vieil homme. Et donc à vous d'éteindre ce qui est dans la ligne d'Ève au profit de Marie. La tentation pour la femme, c'est toujours de vouloir imiter Ève au détriment de Marie. Alors que devez-vous faire pour rester dans la ligne d'Ève, dans la ligne de Marie, pardon ? Erreur. Ah, vous suivez bien. Premièrement, refusez d'être le jouet de l'homme. Refusez d'être le jouet de l'homme. et donc ne cherchez pas à séduire. Chercher à séduire, c'est pour une femme se dégrader. Vous voulez être respecté, très bien, et c'est normal. Mais pour être respecté, vous devez vous montrer respectable. Et pour cela, il vous faut conserver la modestie. Comme le disait le pape Pie XII, mode et modestie devraient aller de pair. Mais malheureusement, disait-il, la modestie n'est plus de mode. Que disait le pape Pie XII, donc il y a une cinquantaine d'années, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Donc, à chacune d'entre vous de vous poser la question, est-ce que les vêtements que je porte sont dans la ligne de la modestie chrétienne ou sont dans la ligne de la pensée moderne ? Donc, il ne s'agit pas ici, bien sûr, de vouloir vous habiller comme au XIXe siècle, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il ne s'agit pas d'être des arriérés, des rétrogrades, des retardataires. Il ne s'agit pas d'être des nostalgiques d'un passé révolu, ce n'est pas du tout cela. Il s'agit de retrouver les vertus qui ont fait les saintes de votre pays, vertus qui sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. C'est cela qu'il faut. Et c'était le but un petit peu de ce que je voulais vous dire ce matin. Dans la mesure où vous pratiquerez ces vertus qui ont fait les saintes du passé, eh bien, dans cette mesure-là, vous sentirez très bien qu'est-ce qui est dans la ligne de votre féminité et de votre catholicité. Les vertus chrétiennes vous inspireront votre manière d'être, inspireront votre manière de vous comporter et jusqu'à votre manière de vous habiller. Et soyez bien rassurés là-dessus, le sens catholique n'est pas du tout incompatible avec le bon goût, la beauté et l'élégance. Le vrai, le bien et le beau vont toujours de pair. Et c'est au contraire dans la mesure où vous allez vous mettre à la remorque de modes plus ou moins douteuses que vous perdrez ce sens de la vraie beauté, de la vraie grandeur. Donc refusez d'être le jouet de l'homme, refusez d'être aussi le compagnon de travail de l'homme. L'homme et la femme sont égaux par nature, mais selon leur mode propre. Donc dans la mesure où vous le pourrez, mais après les circonstances sont bien sûr différentes, si un jour vous êtes mère de famille, eh bien, faut toujours privilégier l'éducation de vos enfants et le nombre d'enfants en fonction de ce que le bon Dieu attend de vous en tant que mère et non pas en fonction de votre travail. Certainement qu'une des conséquences du travail de la femme, c'est la réduction du nombre d'enfants, parce qu'on ne peut pas s'occuper de plus d'enfants parce qu'on est obligé d'aller travailler. Et ensuite, ce travail de la femme fait que, bien sûr, ce n'est pas la maman qui s'occupe des enfants, ce sont d'autres personnes, et donc les enfants ne peuvent pas être aussi bien éduqués, c'est bien clair. Donc refusez autant que vous le pouvez d'être le compagnon de travail de l'homme. Et puis enfin, troisième point, développez votre maternité et n'oubliez pas la transmission des valeurs morales et spirituelles par une vraie vie intérieure. Et ne craignez pas qu'en agissant ainsi, vous allez vous enfermer dans un carcan intolérable. Léon Blois disait, plus une femme est sainte, plus elle est femme. Plus une femme est sainte, plus elle est femme. Donc la religion catholique ne va pas détruire votre personnalité, il va au contraire lui permettre de s'épanouir pleinement selon Dieu. Dernier point, française. Jeune fille française. Il me reste donc à développer le mot de française. Pourquoi s'arrêter à ce terme de française ? Est-ce que toutes les femmes n'auraient pas la même vocation ? Est-ce que les Françaises auraient quelque chose de spécial à apporter au monde ? Qu'est-ce que les Françaises ont de plus que les autres ? Eh bien, pour le comprendre, il faut savoir que si chaque personne a une vocation particulière, chaque peuple également. Et c'est ainsi que la France a bien une vocation particulière et même une place de choix dans la Sainte Église. L'histoire de notre pays le montre. Depuis Clovis jusqu'au curé d'Ars, en passant par Charles Martel, vainqueur de l'islam, par Saint-Louis et Sainte-Jeanne d'Arc, la France a bien mérité de l'Église. Et c'est pourquoi on a donné à la France ce titre glorieux de fille aînée de l'Église. La France est fille aînée de l'Église. C'est dire qu'elle est appelée à être un modèle, un exemple, une référence pour toute l'Église. Dans un sermon célèbre donné à Notre-Dame de Paris le 14 février 1841, le père Lacordaire, je vous signale que nous sommes ici dans la maison Lacordaire, donc le père Lacordaire a vécu ici, c'est ici qu'est reparti au XIXe le renouveau dominicain, eh bien, le père Lacordaire disait à Notre-Dame de Paris le 14 février 1841, en regardant l'histoire de l'Église, quel est le peuple à qui l'Église doit le plus dans le passé et de qui elle peut attendre davantage dans l'avenir? Et il répondait sans hésiter, la France. Alors, quelle preuve, me direz-vous, donner à cette affirmation qui pourrait peut-être paraître bien orgueilleuse ou bien téméraire? Eh bien, cette affirmation repose sur deux critères objectifs. Tout d'abord, la France est le pays qui tient le premier rang au palmarès des canonisations. Vous savez qu'aux yeux de Dieu, c'est la sainteté qui compte. Dieu nous a créés pour que nous soyons saints. Seuls les saints répondent parfaitement à leur mission, à leur vocation. Et par ailleurs, vous le savez aussi, chaque saint a un rayonnement extraordinaire. S'il est vrai déjà, comme disait à juste titre Élisabeth Le Sœur, qu'une âme qui s'élève élève le monde, eh bien un saint fait un bien fou, non seulement dans son entourage, mais parfois il a un rayonnement bien plus grand dans son pays et jusque dans le monde entier. Que ce soit Sainte Jeanne d'Arc ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, leur sainteté a eu des effets sublimes, dont les fruits sont encore présents aujourd'hui sous nos yeux. Et donc, dans la mesure où la France a produit par le passé tant de saints, elle a donné à Dieu, elle a donné à l'Église un nombre incalculable d'âmes. Et voilà pourquoi c'est à juste titre que la France a reçu le nom de fille aînée de l'Église. La France donc mérite d'être appelée fille aînée de l'Église en raison du nombre de saints qu'elle a enfantés, qu'elle a nourris, qu'elle a formés, qu'elle a donnés au monde. Mais ce titre, elle le doit aussi à son esprit catholique. C'est le deuxième aspect, deuxième critère objectif qui explique pourquoi la France est le peuple à qui l'Église doit davantage. Le mot de catholique signifie universel. Et donc quand je dis que la France a toujours eu cet esprit catholique, je veux dire qu'elle a toujours eu un esprit missionnaire. Alors ici, je n'ai pas les derniers recensements, mais il n'y a pas si longtemps, la France possédait plus de la moitié des missionnaires du monde entier. La France est le berceau des trois œuvres pontificales missionnaires et de la plupart des grandes congrégations missionnaires. Donc la France a bien mérité de l'Église, non seulement en raison du nombre de ses saints, mais également en raison du nombre de ses missionnaires. Et par là, elle a manifesté le souci qu'elle a du salut des âmes, quelle que soit leur race, quel que soit leur pays. Or, et là encore, ce fait est très remarquable et tout à votre honneur, la jeune fille a toujours eu une part privilégiée dans les missions de la France. Que ce soit une Sainte Geneviève, que ce soit une Sainte Jeanne d'Arc, miracle unique au monde, une Sainte Bernadette, une Pauline Jéricot de Lyon, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toutes sont des modèles de jeunes filles de France et toutes ont eu un rayonnement qui a enrichi l'Église tout entière. Alors quand on porte ainsi un regard sur le passé, fort de ces magnifiques exemples, on voit mieux ce que le bon Dieu réserve aujourd'hui encore, sans aucun doute, à la jeune fille française. Les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu est fidèle. Donc s'il est vrai que le bon Dieu a donné à la France une vocation particulière, et si le bon Dieu a donné aux jeunes filles de France une vocation admirable, comme nous le montrent les quelques exemples que j'ai cités, nul doute que le bon Dieu fera beaucoup de bien à travers vous si vous êtes fidèle à sa grâce et à ses inspirations. Donc pensez que vous pouvez avoir un beau rayonnement, un grand rayonnement, en raison précisément de la vocation universelle de votre pays. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut bien sûr imiter et cette sainteté et ce zèle missionnaire des filles de France qui vous ont précédé. En 1937, donc maintenant on avance dans le temps, après 1841, le père Lacordaire, maintenant 1937, le futur pape Pie XII prononcé à Notre-Dame de Paris à l'occasion de l'inauguration de la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux un sermon. Et au cours de son magnifique discours, le futur pape Pie XII n'a pas hésité à dire « Quand je pense au passé de la France, à sa mission, à ses devoirs présents, au rôle qu'elle peut, qu'elle doit jouer dans l'avenir, en un mot, à la vocation de la France, comme je voudrais crier à tous les fils et filles de France, soyez fidèles à votre traditionnelle vocation. » Et il ajoutait cette phrase qui me semble très importante de graver en votre mémoire, surtout aujourd'hui, dans cette heure de pessimisme qui parfois envahit nos milieux. Jamais heure n'a été plus grave pour vous en imposer les devoirs, donc pour correspondre à votre vocation. Il ajoute donc, il disait, jamais heure n'a été plus grave pour vous en imposer les devoirs. Mais il ajoutait, jamais heure n'a été plus belle pour y répondre. Jamais heure n'a été plus grave, jamais heure n'a été plus belle. Ne laissez pas passer l'heure, ne laissez pas s'étioler des dons que Dieu a adaptés à la mission qu'il vous confie. Ne les gaspillez pas, ne les profanez pas au service de quelque autre idéal trompeur, inconsistant ou moins noble et moins digne de vous. Donc retenez surtout ceci qui reste tout à fait d'actualité, jamais heure n'a été plus grave, jamais heure n'a été plus belle. Sans doute lorsque le monde était chrétien, c'était beaucoup plus facile de se sauver, c'était plus facile de rester fidèle. Aujourd'hui, alors que le monde catholique s'écroule autour de nous, eh bien il faut se dire, quelle grâce d'avoir la foi, quelle grâce de pouvoir se sanctifier, mais quelle grâce aussi de pouvoir redonner l'espérance à tant d'âmes qui l'ont perdue. Voilà la pensée d'une âme catholique. Oui, pour vivre à la hauteur de votre vocation, vous devez tout d'abord rechercher la sainteté. Et quand je parle de sainteté, je ne parle pas, bien sûr, de faire des choses extraordinaires. Le mot sainteté fait souvent peur. La sainteté ne consiste pas à faire des miracles. La sainteté ne consiste pas à bénéficier d'apparitions extraordinaires. La sainteté consiste à vivre tout simplement le plus chrétiennement possible dans le monde d'aujourd'hui. La sainteté consiste à pratiquer votre devoir d'État chez vous, ou à l'université, ou dans votre milieu de travail. La sainteté consiste à éviter le mal et faire le bien. Donc il s'agit d'abord d'éviter la contagion du monde, la contagion de l'esprit du monde, la contamination de l'esprit libéral qui souffle dans l'Église, et pour cela, vous devez vous forger des convictions. Et c'est sûr qu'une bonne retraite est là pour vous y aider. Et il s'agira ensuite de transmettre alors ce que vous aurez reçu. C'est ce que Mgr Lefebvre a fait graver sur sa tombe. J'ai transmis ce que j'ai reçu. Moi-même, en tant que prêtre, je transmets ce que j'ai reçu. Eh bien, vous-même, vous devez vous forger des convictions pour être pleinement catholique, à 100%, catholique sans complexe. Et vous devez ensuite transmettre cela aux âmes que vous côtoyez, dans la mesure où vous le pouvez, à la place où vous êtes. Et donc, si vous voulez ne pas vous laisser enliser dans la fange de l'impureté, dans la boue du péché, le meilleur moyen, c'est de chercher à rendre le monde meilleur. Il y a des mères de famille qui nous disent comment faire pour que nos enfants ne se laissent pas avoir par ce monde pourri. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de leur donner cet esprit de miséricorde vis-à-vis de ces âmes qui vivent loin de Dieu et de leur donner des arguments pour les aider à sortir ces âmes du péché. Donc qu'elles aient d'abord la charité et ensuite cette compassion et ensuite aussi ces arguments pour pouvoir répondre aux objections qui peuvent être posées. Donc pour éviter d'être contaminé par le mal, il ne faut pas nécessairement s'enfermer chez soi à double tour. Il ne faut pas nécessairement vivre replié sur soi. Il faut plutôt avoir à cœur de réveiller autant qu'on le peut les consciences endormies, les cœurs amollis, les esprits assoupis. Donc il faut affirmer clairement, simplement, les vérités, sans redouter de vous faire taxer de sectaire, d'intolérant, d'intégriste. N'ayez pas peur, le témoignage de la vérité est toujours porteur de grâce. Pensez, voyez, à ce passage de la vie de Sainte Bernadette, où Sainte Bernadette, je ne sais plus à qui elle parlait, elle témoignait. Et donc, en témoignant de la vérité, de l'apparition, la personne qui était en face d'elle disait « Je ne vous crois pas ». Alors elle dit « Mais moi, je ne vous ai pas demandé d'y croire, je vous ai demandé, on m'a pas dit de vous forcer à croire, on m'a dit de vous le transmettre. » Point. Donc la question de la croyance, je dirais, c'est Dieu qui ensuite change les cœurs. Notre mission, c'est de dire la vérité. Que les gens y croient ou qu'ils ne croient pas, ben après, c'est leur problème, c'est plus le nôtre. Mais maintenant, c'est vrai que pour que votre témoignage porte, alors, il faut que les âmes que vous côtoyez sentent que vous êtes pénétrées de ce que vous enseignez. Il faut qu'elles discernent en vous l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Dans toute l'expérience pastorale, je peux dire que j'ai pu avoir en 15 ans de ministère, ce que j'ai constaté, c'est que ce ne sont pas avant tout des arguments qui convertissent, c'est avant tout la charité qui convertit. Maintenant, il est aussi nécessaire, encore une fois, d'être capable de rendre témoignage de notre foi. Donc il faut être capable de répondre aux questions qui nous sont posées. Mais ce qui touche une âme, c'est d'abord la charité. S'il n'y a pas la charité, les arguments les plus pointus seront absolument inefficaces. Donc le travail à faire est d'abord intérieur. Il faut d'abord s'intérioriser. Si vous êtes une femme intérieure, en ce moment-là, vous trouverez les mots, vous trouverez le moment, vous trouverez la manière de dire les choses, et c'est ce qui fait que votre message passera. Donc comprenez par conséquent, et je vais terminer par là, que votre mission s'inscrit dans cette ligne des saints et saintes qui ont fait la France et qui ont étendu son rayonnement dans le monde entier. Est-ce que vous vous montrerez digne de votre magnifique vocation? Est-ce que vous garderez le dépôt qui vous est confié? Est-ce que vous transmettrez le message reçu? Eh bien, pour remplir cette mission, confiez-vous au cours de cette retraite à celle que le peuple français se plaît à nommer si noblement sa dame et qui lui a témoigné tout au long de son histoire, depuis Chartres jusqu'à Lourdes, un amour de prédilection. Notre-Dame de Boulogne, ou encore Notre-Dame de la Garde, ou Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Paris, et cent et mille autres lieux de dévotion, c'est toujours Notre-Dame de France que l'on peut invoquer dans tous ces sanctuaires. C'est la Vierge Mère, Reine de France. Vous connaissez cet adage qui dit « Regnum Galliae, Regnum Mariae ». Le royaume de la Gaule, c'est le royaume de Marie. Donc tenez à honneur de garder filialement le culte de Notre-Dame. La contemplation de Notre-Dame, l'amour de Notre-Dame vous maintiendront jeune, vous maintiendront catholique, vous maintiendront donc dans cette ligne de ces filles qui vous ont précédé, donc vous maintiendront dans cette fidélité à votre vocation de française. En un mot, cette contemplation vous maintiendra fidèle à votre vocation, à cette mission providentielle de votre pays, qui est de maintenir dans le monde ce sens de l'équilibre, de l'harmonie et de la mesure. Pensez à cela, la qualité des Françaises, c'est cette mesure, c'est cet équilibre, c'est cette harmonie. Donc nous allons nous rendre maintenant à la chapelle pour une petite prière.